merci beaucoup d'être présent pour cette journée d'études, cette journée ouverte à tout le monde ici à la Maison des sciences de l'homme de Nice. Donc pour certains, c'est une première venue et on peut se féliciter de cette situation. En quelque sorte, c'est un peu difficile de rentrer parce que les portes sont fermées à clé, donc des fois il faut patienter. Il faut parfois laisser entrer quelqu'un qui a la carte pour pouvoir pénétrer dans cette enceinte. Mais l'idée, c'est que cette enceinte soit ouverte à tous, notamment pour cette journée qui donc est organisée par l'URMIS, Unité de Recherche Migration Société de l'Université de Nice, au sein de cette maison des sciences de l'homme qu'on appelle aussi maison de Saint-Jean d'Angély. Ici, c'est la salle plate. Mais elle est aussi organisée au sein de l'URMIS dans le cadre d'une structure, une sous-équipe, on pourrait dire, qui est représentée ici par Soigny Poteau, qui s'appelle l'Observatoire des migrations dans les Alpes-Maritimes. Donc vous voyez que le thème de la frontière est complètement intégré dans cette structure qui n'est pas simplement une structure qui rassemble des chercheurs de l'URMIS, mais aussi d'autres laboratoires, notamment le laboratoire Hermès, qui est largement représenté ici ce matin et cette journée. Voilà, donc l'idée, c'est de travailler entre plusieurs chercheurs, mais aussi d'ouvrir l'étude des récits à d'autres approches. Et j'essaierai de le montrer tout à l'heure, des approches qui dépassent simplement le cadre de la recherche, où les chercheurs sont amenés à être confrontés à d'autres manières de dire. La migration en particulier, et en l'occurrence la migration dans le cadre de la traversée des frontières et d'une frontière qui est celle donc de la France et de l'Italie, des Alpes-Maritimes, parce qu'on aurait pu travailler aussi sur d'autres lieux, mais là on est dans une sorte d'unité de lieu, plus que d'ailleurs que d'unité de temps, d'unité de lieu. Et je voudrais d'abord, donc, dans un premier temps, faire une toute petite remontée dans l'histoire de ce qui a été produit, parce que beaucoup de choses, cette journée s'inscrit dans une assez longue tradition de travaux qui ont été menés ici à Nice sur la question de la frontière. Et alors, je ne vais pas refaire toute l'histoire parce que ce serait extrêmement long, mais quelques balises importantes, notamment ce colloque auquel certains ici ont participé. C'était en 1990, donc la jeune génération n'a pas connu, moi non plus d'ailleurs, pour 20 ans. Mais Ralph, par exemple, Marc Ortolani ont quelque chose à dire sans doute sur ce colloque qui a été donc organisé à la faculté des droits. C'était le centre d'histoire du droit, les historiens du droit qui s'étaient rassemblés autour de ce thème, les Alpes-Maritimes et la frontière, avec cette image devenue célèbre du douanier italien et du douanier français se congratulant sur la borne frontière qui a ensuite disparu. Donc colloque a été publié aux éditions Serre, comme vous le voyez. Donc 1990, c'était déjà une approche scientifique considérée comme importante, et puis ce colloque auquel beaucoup plus d'entre nous ont participé, puisque c'était dans le cadre de l'URMIS en 2011, et le thème était d'essayer de réfléchir à terre et gens de frontières, c'est-à-dire finalement comment est-ce qu'on habite sur une frontière, et encore une fois, cette frontière des Alpes-Maritimes, on l'avait étendue à Monaco même, donc ça s'était déroulé sur 3 jours en décembre 2011, et il y a pas mal de gens ici qui étaient présents, peut-être certains d'ailleurs ne s'en rappellent même plus qu'ils étaient là, mais en même temps, voilà, c'est un colloque qui, me semble-t-il, a beaucoup porté. On en reparlera tout à l'heure avec Agnès Arques-Roth, donc 2011. Et puis, donc justement, ce sera la parole à donner au musée de l'histoire de l'immigration à Paris. De cette rencontre, de ce colloque de 2011, a jailli l'idée d'organiser, ce qui montre bien comment est-ce que, le travail de l'histoire, de la sociologie, des sciences politiques, du travail des politistes peut amener aussi à d'autres formes de rendu en termes de récit. Une exposition qui a été donc organisée sur l'impulsion notamment d'Agnès Arques-Roth et de son service au musée d'histoire de l'immigration, qui est le service du réseau Partenariat. Une exposition qui était organisée entre 2015 et 2016, qui a été présentée au musée d'histoire de l'immigration, qui s'intitulait, mais je dirais aussi qui s'intitule encore, parce qu'il y a une déclinaison en termes itinérants, et on va essayer de la voir nous à Nice, qui s'appelle donc Frontières, tout simplement, une exposition sur les limites et leurs limites, avec tout un ensemble de communication autour de ce sujet qui avait été fait, provoqué dans cette fin d'année 2015, où je me rappelle bien que le moment de l'inauguration correspondait exactement au moment des attentats. Et donc ça avait été effectivement extrêmement tendue hein, et dense que d'évoquer ce sujet à ce moment-là. Et puis plus récemment aussi, une rencontre qui avait été organisée à l'instigation des archives départementales des Alpes-Maritimes, Yves Kinossian, qui avait rassemblé un certain nombre de collègues, notamment Marc Ortolani et Ralph Shore, sur fixer et franchir la frontière, un colloque qui s'était organisé donc il y a 2 ans au Palais des Roissardes, et une publication qui a suivi, une exposition aussi, dans ce contexte. Et puis, donc, cette séance pourrait être la suite de ce qui s'est passé au mois de septembre ici, c'est-à-dire la rencontre avec le journaliste Raphaël Kraft, qui n'est pas là en ce moment, qui est, je crois, en Guinée, hein, parti en reportage, mais qui avait fait cette intéressante séance, qui avait, d'une certaine manière, apporté des éléments de réflexion pour aujourd'hui, c'est-à-dire comment est-ce qu'on raconte, comment est-ce qu'on narre le récit, comment est-ce qu'on narre le passage de la frontière, et à travers ce récit journalistique de Raphaël Kraft, qui était venu faire une enquête ici, quand je dis ici, c'est sur la frontière, et qui a ensuite, agi, hein, il s'est mis dans la position du passeur, il a aidé 2 migrants à traverser la frontière, dans un sens, qui va l'amener à passer à travers les montagnes. Il va relater cette expérience chez Buchet-Chastel en 2017, ce qui va provoquer cet ouvrage Passeur, et qui donne justement à la figure du passeur peut-être une autre image que celle que les médias ont tendance en général à présenter. Donc voilà un type de récit intéressant qui est peut-être une base de travail pour notre journée. Et cette séance, effectivement, est une séance qui a mis en scène tout un ensemble de récits, tout un ensemble de manières de dire le passage. Alors, le premier constat que je voudrais faire, et je serai très bref, enfin, j'essaie d'être bref, c'est que cette frontière des Alpes-Maritimes, et c'est un cadre de réflexion dans notre observatoire, est une frontière qui a sans doute des spécificités. Quelles spécificités ? C'est un élément que nous questionnons. On n'a pas forcément toutes les réponses, mais c'est une question autour de nous. Est-ce que la frontière de Vintimille, de Menton, de la Roya, elle a un cadre particulier, ou est-ce qu'elle peut être totalement comparable avec ce qui se passe en Alsace, ce qui se passe en Lorraine ou dans le Nord ou dans les Pyrénées? Quels sont les cadres spécifiques? Alors il y en a un que moi je voudrais appuyer et qui peut-être est un cadre qui va nous amener à réfléchir aujourd'hui. C'est que c'est une frontière qui est constamment sous le feu des médias, constamment sous le feu des politiques. Constamment, quand je dis constamment, c'est que ça n'a pas attendu la dite crise des migrants de 2014-2015 ou même de 2011, mais c'est qu'il y a une longue histoire du regard médiatique appuyé sur Menton-Vintimille, du regard médiatique appuyé sur la vallée de la Roya, et qui me semble marquer ce qu'on pourrait appeler un imaginaire peut-être local, sans doute, peut-être national, puisque quand des hommes politiques viennent ici en visite à Nice, ils vont directement à la frontière pour montrer leur présence. Et peut-être aussi international, parce que beaucoup, quand on pense aux traversées de frontières, on a des hotspots, et en France, on a Calais, on a Vintimille. Donc on a quand même quelques éléments qui, d'ailleurs, trahissent un peu la réalité à ce niveau-là. Et donc, déjà, cette frontière attire de nombreux médias et de nombreux politiques. Mais elle attire aussi, on en parlait aussi assez récemment, de nombreux chercheurs. Les chercheurs sont omniprésents, hein. Luca, tu rigoles, mais voilà, les chercheurs sont omniprésents, et on disait qu'il y a presque un embouteillage de chercheurs à la frontière. Alors, pas tellement des historiens qui sont plutôt dans les archives, mais plutôt sociologues, mais même aussi historiens qui peuvent aller à la recherche de témoignages oraux. Hein. Mais il y a effectivement cette omniprésence de chercheurs qui fait que parfois le filon s'épuise. Enfin, je ne sais pas, on pourra en discuter, ce sera un élément à prendre en compte. Et elle attire aussi, et là, on ne va pas s'en plaindre, des militants. Des militants qui sont présents depuis longtemps, mais qui sont devenus visibles, en tout cas beaucoup plus visibles ces derniers temps. Et donc, vous voyez, il y a cette intensité qui me semble importante, intensité médiatique, intensité politique, intensité de la recherche et intensité du militantisme, hein, donc qui vient un petit peu supplanter le simple contrôle, la simple surveillance dans ce contexte. Et donc, c'est là que les récits s'enchevêtrent, me semble-t-il. C'est là que les récits se mettent en jeu. Et c'est ce que nous allons questionner aujourd'hui. Alors quand je parle de récits, ce sont les récits des historiens, les récits des sociologues, les récits des politistes. Sur quoi travaillent-ils? Et comment est-ce que leurs archives apportent des éléments d'analyse de l'expérience migratoire de la traversée des frontières? Donc, ce qu'on va demander à nos collègues aujourd'hui, c'est de mettre en perspective leur matériaux, leur manière les outils avec lesquels ils travaillent pour que ces outils les fassent parler d'une certaine manière et ils leur apportent un regard un peu différent. Mais c'est des récits qui viennent se heurter à d'autres récits. Le récit des journalistes, on vient de le voir. le récit des hommes politiques qui s'expriment sur le sujet, le récit des militants qui peuvent, à un moment donné, porter une parole, mais aussi le récit des artistes, des écrivains, des photographes, des cinéastes. Là, j'ai mis une image du fameux film Le Cornio, 1964, où il y a la traversée de la frontière. Alors, c'est une migration un peu particulière, c'est la migration d'un diamant, le Yukun-Kun. Hein, mais bon, on a voilà, la traversée de la fameuse voiture de Louis de Funès, et ça c'est la voiture de Bourville, et bon, la frontière elle est traversée, c'est un récit de traversée, c'est le récit d'une odyssée. D'ailleurs, on part d'Italie, hein, et on vient jusque, je crois, dans le sud-ouest, et le passage de la frontière, il est d'ailleurs problématique pour de Funès, puisque tout est fouillé, donc il y a un récit qui est évoqué, voyez, et qui vient se plaquer dans cette époque avec d'autres récits liés à la migration. Mais les artistes, et ça je sais que certains connaissent bien, c'est par exemple le roman graphique, la bande dessinée, à travers notamment Baudouin, qui s'est intéressé justement à la Roya, à travers cette bande dessinée qui a été publiée, je crois, cette année ou fin d'année dernière, Humain, Roya est un fleuve. Voilà, quelques autres exemples, c'est Pistoletto, hein, Daniela, qui est venue placer sa performance qui s'appelle, je crois, les Troisième Paradis, non, c'est ça, Troisième Paradis, à la frontière, c'est sur la frontière ici, où l'art s'est exprimé en signe de militantisme. Ici, donc, on a, à travers, vous voyez, une frontière qui est investie par les artistes, c'était en 2017, me semble-t-il, en avril 2017, hein. Il y a d'autres éléments, je parle juste quelques éléments comme ça. Et puis en 2011, il y avait cette, ça c'est plutôt pour les arts du vivant, si on peut dire, hein, cette performance qui s'appelait I Sentiero dei Vestiti, où à Imperia, Daniel Del Ministro avait organisé une, avec sa troupe d'artistes, une itinérance sur le chemin de ceux qui laissaient leurs habits et leurs affaires en passant la frontière. Et donc ils refaisaient cet itinéraire avec une performance d'artiste. Ça, c'était plus avant, c'était en 2011, et on en avait parlé notamment lors du colloque. Donc, la frontière est investie par les écrivains, les artistes. On va avoir des exemples ici, même dans la journée. Et moi, je voudrais donc, juste pour lancer les choses, hein, pour donner une sorte de... C'est pas un modèle, hein, c'est juste une manière, puisque je vais pas contribuer, c'est juste une manière de donner le ton, si on peut dire. Hein, et ensuite, Soigny et Agnès Arques-Roth... introduiront à leur tour la journée. Voilà comment est-ce qu'on peut, en tant que chercheur, tomber d'une certaine manière sur un récit de frontière. Vous voyez, un quotidien que j'affectionne, Nice Matin, hein, qui est une source incontournable, hein, de lorsqu'on travaille sur l'histoire locale. Ce jour-là, je cherchais des éléments sur le sport. Vous voyez, le Tour de France. Vous voyez, et quand on tombe sur le sport, parfois on tombe sur des éléments qui sont un peu différents. Et là, vous voyez, en marge, nous sommes en 1972. En juillet 1972, et je suis tombé sur cet article qui s'appelle, vous voyez, 14 Maliens qui tentaient de pénétrer clandestinement en France, interceptés à temps par la gendarmerie et refoulés vers l'Italie. Alors, ça, c'est la une qui accroche. Et quand on rentre dans le détail, ici, donc de cet article de juillet 1972, on tombe sur un récit de frontière. Alors, je vais essayer de le. Je ne sais pas si on peut zoomer. Zoom avant. Voilà. Zoom avant, comment c'est de zoom avant? Non, c'est pas ça. Vous arrivez à lire là ou pas? Je vais sortir mes lunettes.
Non.
Hein? Non, je vais pas le faire. Alors, juste pour donner comment est-ce que le récit s'impose à vous quand vous lisez le journal. Hein, vous voyez, et il y a des choses qui sont très significatives. Nous sommes en 72, donc il y a une surprise du journaliste. Donc c'est un récit journalistique. Pour venir de Tombouctou à Paris, il semble à première vue que la ligne droite... qu'empruntent les avions soit le plus court chemin. 14 ressortissants maliens viennent curieusement de tenter une démonstration toute différente pour monter, entre guillemets, à Paris, non pour y faire la foire, mais pour y travailler. Ils ont en effet effectué quelques détours, vainement du reste, car ils sont échoués au port ou presque, notre pays réglementant sévèrement l'entrée du territoire national au sujet africain. C'était le temps des circulaires Marcelin Fontanet qui avaient été votées et qui empêchaient, qui restreignaient l'accès. Quittant donc leur Mali natal avec leurs bagages et de l'argent en suffisance, ils passèrent par le Niger, l'Algérie et la Tunisie. À Tunis, ils montèrent bien dans un avion, mais à destination de la Sicile. Rendus à Palerme, ils gagnèrent la péninsule italienne et remontèrent jusqu'à Turin, cette fois en train. À Turin, ils frettent deux taxis, donnant en guise d'adresse la ville de Tende. Les chauffeurs les conduisent jusqu'à la frontière italienne où tout se passa bien. L'Italie ne faisait aucune difficulté quant à des sujets étrangers quitter leur pays. Il n'en aurait pas été de même aux frontières françaises. Les consignes du gouvernement sont nettes. Les citoyens d'Afrique noire, démunis d'un contrat de travail, sont refoulés. Les Maliens connaissant pertinemment l'interdit, car ils firent stopper les taxis à quelques centaines de mètres du poste frontière de Tende, gagnèrent la ville à pied à travers champs. Sans doute se croyaient-ils tirés d'affaire et ne plus avoir à gagner Paris, qu'à gagner Paris, par le moyen de locomotion de leur choix. Malheureusement pour eux, deux gendarmes de la patrouille de brigade de Tende patrouillaient aux aurores. Il était 5 heures du matin, hier, quand ils alertèrent leur chef, lequel demanda le renfort des gendarmes de Saint-Dalmas. Bientôt, les 14 hommes, très souriants du reste, étaient rassemblés dans les locaux de la gendarmerie où ils racontaient leur odyssée. Le responsable du secteur frontière, M. Hébrard, ouvrait immédiatement une enquête à laquelle allaient participer les personnes de la PAF. Et peu après, les 14 hommes montaient à bord d'un car de CRS qui les reconduisait aux autorités italiennes qui devaient accepter leur passage, mais les refouleront à leur tour vers le dernier pays emprunté selon les accords internationaux. Ils restent donc aux Maliens à refaire leur étonnant voyage en sens inverse. Voilà, donc, si vous voulez, ce type de récit, il est daté, il a une tonalité, il a une personnalité. C'est un récit d'un journaliste qui raconte ce passage, cette traversée, en l'occurrence ici, infructueuse de la frontière. D'ailleurs, quelques jours plus tard, j'arrête là-dessus, mais simplement, vous voyez, pour la deuxième fois en 8 jours, des Maliens sont refoulés sur l'Italie. Ce qui montre que, moi, ce qui m'a surpris dans ce récit, par exemple, c'est l'effet de surprise. C'est que ça apparaît comme une forme d'événement un peu curieux, un peu presque exotique, que des Maliens soient à la frontière de Tende, vous vous rendez compte ? Voilà, c'est ça qui est intéressant, alors que ça contraste énormément avec aujourd'hui et la situation de récurrence dans laquelle on est. Alors, juste pour terminer, donc, nous sommes finalement dans cette unité spatiale, et ça c'est un exemple, qui donne un peu d'épaisseur dans le temps, si vous voulez, à une époque où finalement ces passages effectivement sont un peu exceptionnels ou relativement exceptionnels, suffisamment pour que le journaliste en fasse un écho un peu amusé. Cette unité spatiale est une unité qui va effectivement mettre en évidence le fait que principalement il s'agit de questionner la source, l'archive, le document, le témoin, qui parle, qui raconte, quel support utilise-t-on, pour qui parle-t-on. Quelle est la frontière entre la réalité et l'imaginaire, la mise en scène et la manière de raconter les choses, et puis le surgissement du récit. Un surgissement qui peut se faire avec un effet de surprise, voire de sidération, ou au contraire, un récit qui s'inscrit dans une litanie d'informations ou de récits. Et je crois que ça, c'est un élément qui est un élément important, avec ce souci, sans doute, pour cette journée en tout cas, de respecter un certain nombre d'équilibres, je l'ai dit, un équilibre entre chercheurs et non-chercheurs, même si c'est un peu difficile pour nous chercheurs, on a tendance à être plutôt dans ce milieu des chercheurs, mais on a essayé d'ouvrir aujourd'hui, un équilibre masculin-féminin, bon voilà, un équilibre roya-littoral, pour la traversée de la frontière, un équilibre entre contributeurs français et italiens. Donc, vous voyez, plusieurs équilibres, tous les équilibres ne sont pas respectés, mais en tout cas, le but était dans ce sens. Voilà, Soigny, je te donne la parole.
D'accord, merci. De toute façon, j'ai pas énormément à dire. D'abord, merci Yvan pour l'organisation de cette journée. Merci de m'offrir cette tribune en introduction de cette journée. Puisque je suis là pour dire quelques mots sur l'Observatoire des migrations dans les Alpes-Maritimes, dont tu as déjà parlé, et que je coordonne avec ma collègue Pinard Sélec, qui n'est pas là aujourd'hui. Donc je dirais juste quelques mots sur cette initiative de l'Observatoire. C'est une initiative qui est née de deux laboratoires, tu l'as dit Yvan, Hermès et l'URMIS, au sein de la MSH, et qui est soutenue par l'Université de Nice, ou l'Université Côte d'Azur, comme on dit maintenant. Donc, il faut savoir que la thématique des migrations est travaillée de longue date à l'Université de Nice, notamment à l'URMIS, mais pas seulement. Il y a de nombreux laboratoires qui travaillent sur cette thématique, notamment en dehors de l'URMIS et d'Hermès, le CMMC, qui a produit depuis longtemps des travaux sur cette question. Et parmi les travaux sur les migrations, un certain nombre de travaux portent en effet sur la région niçoise en tant que terre d'accueil. Mais c'est seulement avec la réactivation de la frontière à partir de 2015 que cette zone frontalière et que le département des Alpes-Maritimes sont devenus des points chauds de la question migratoire en Europe. Et c'est donc dans ce contexte qu'on a décidé de créer cet observatoire des migrations centré sur l'échelle locale. L'objectif de cet observatoire est double. D'une part, il s'agissait de mettre en lumière l'ancienneté, tu l'as dit Yvan, de la question migratoire et frontalière dans le département, et également l'ancienneté de l'intérêt des chercheurs pour ce terrain. Depuis longtemps, les métropoles azuréennes ont été des pôles d'immigration relativement importants, et les chercheurs en sciences sociales ne s'y sont pas trompés, puisque vous pouvez aller voir sur le site de l'Observatoire, on a recensé un certain nombre d'articles, et on est loin d'être exhaustif, mais qui reprennent cette thématique à travers le temps, depuis des articles qui datent des années 70 sur le bidonville de la digue des Français, et puis des travaux notamment d'historiens sur l'immigration italienne, des travaux de sociologues sur les migrants sénégalais qui arpentent les plages pour vendre des bricoles, des travaux sur les arrivées d'Europe de l'Est, etc. Et tous ces travaux qui ont été peut-être faits de façon un peu éparse, on avait envie de les mettre un petit peu en valeur pour souligner la capacité que la région a eue à travers le temps à devenir un espace cosmopolite, pour reprendre les mots d'un ouvrage que Yvan, Ralph Shore et Stéphane Mourlane ont co-dirigé ces dernières années. D'autre part, l'idée de l'Observatoire, c'était aussi de coordonner et de donner une certaine visibilité aux travaux qui ont été initiés ces dernières années à la faveur des tensions sociopolitiques construites autour de la frontière franco-italienne. L'idée, c'est de mettre en lumière des recherches en cours en essayant de sortir du milieu académique pour partager nos connaissances d'une part, mais aussi pour construire avec d'autres acteurs, acteurs qui peuvent être des militants, des journalistes, des artistes, tout un travail, une mise en lumière de ce qui se passe dans cette zone frontalière. Et donc la journée d'études qu'a organisée Yvan aujourd'hui s'inscrit tout à fait dans cette démarche d'une part d'ouverture du monde académique et de croisement des disciplines et des approches de cette question. Puisque tu l'as dit, ça vient après la journée où tu as invité Raphaël Kraft qui nous a présenté son expérience de journaliste passeur. Et aujourd'hui, on propose d'interroger collectivement ce que nous disent les récits autour du passage de cette frontière franco-italienne, en quoi ils nourrissent et participent des représentations populaires, mais aussi dans quelle mesure est-ce qu'ils peuvent dialoguer avec ou voire éclairer les travaux des chercheurs en sciences sociales. Donc, merci Yvan pour avoir organisé cette journée. La qualité des interventions attendues et l'intensité du programme ne laissent pas douter que ces échanges seront riches et donc je ne prendrai pas plus longtemps la parole pour la laisser à ma collègue, puis aux intervenants.
Merci beaucoup, Soigny. Merci pour ton introduction, merci pour le soutien. On va donc donner la parole à donc Agnès Arques-Roth, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est responsable du département partenariat et réseau au Musée d'Histoire de l'Immigration et qui, étant venu à plusieurs reprises à Nice et notamment lors du colloque 2011, a été largement à l'origine de cette exposition Frontières qui nous a permis quand même de réaliser pas mal de choses et notamment d'introduire pas mal d'œuvres d'art dans cette exposition pour dire autrement justement la frontière que par des chiffres ou par des cartes.
Merci Yvan d'avoir encore une fois accepté des non-chercheurs, voilà. Donc, et c'est la magie des organisations peut-être des événements créés par Yvan Gasteau, c'est justement de mélanger les regards et les expertises. Et je trouve que c'est une grande richesse, en tout cas à laquelle le Musée national de l'histoire de l'immigration est très attaché et le remercie à bien des reprises. Alors, je ne vais pas refaire un historique du musée, mais juste en 10 ans, de toute façon, on pourrait dire que la façon de présenter le musée, d'ailleurs, tu as même hésité toi-même, on ne sait plus très bien quels sont les noms des services du musée lui-même qui s'appelait autrefois Cité nationale de l'histoire des migrations. Donc on voit bien que du temps de la mission de préfiguration Cité nationale de l'histoire de l'immigration, on avait l'habitude de dire que c'était un réseau et un lieu. Pourquoi ? Parce que ça rendait hommage finalement à l'initiative de ce réseau d'historiens et de la société civile, de militants qui ont voulu la création de ce musée national. Pourquoi ? Parce que la motivation principale, c'était de faire connaître et reconnaître la participation des populations immigrées à l'histoire de France, et au travers de cela, de contribuer à changer le regard sur les migrants, la migration. Aujourd'hui, je vous fais un passage direct 10 ans après. On a plutôt tendance à dire que c'est un lieu, un réseau. Alors, certains pourraient dire ah ben, on est en train de perdre l'origine du projet. Peut-être que tout simplement, on est en train de prendre conscience de l'originalité de ce projet, qui était de vraiment s'articuler dans un aller-retour permanent entre les territoires et un lieu central, symbolique, fort, au Palais de la Porte Dorée. Et donc, finalement, je pense qu'on est vraiment dans le cœur du sujet, et aujourd'hui, ce colloque illustre bien cette question-là, avec... Je trouve que c'est un très bel exemple de tout ce qui peut se produire dans cette articulation entre un réseau et un lieu central d'un musée national, parce que on a plutôt pensé souvent que c'était une utopie que de s'imaginer coproduire un projet d'une telle envergure, à un niveau national certes, mais avec cette ambition aussi que ça puisse s'étendre au niveau européen et international, de le co-construire véritablement entre des initiatives sur les territoires et un musée national qui a ses propres logiques, contraintes, etc. Et aujourd'hui, on a là aussi, c'est intéressant de regarder les vocables qu'on utilise pour donner à comprendre notre mission. Au tout départ, dans le décret d'origine, c'est conserver, rassembler, montrer justement des récits sur l'histoire de l'immigration pour contribuer à changer le regard. Aujourd'hui, donc sur les migrations, les migrants, aujourd'hui, on a plutôt tendance à dire c'est changer le regard sur la société française. Et là, je trouve que ça a l'air de rien, mais c'est un petit pas qui s'est franchi, puisque ça ne concerne pas seulement que les migrants, mais ça concerne bien l'ensemble de la société française, que de véritablement prendre conscience de cette histoire qui est l'histoire de notre pays, et peut-être d'arrêter de distinguer histoire d'immigration, histoire de France. On en parlait à notre réunion il n'y a pas longtemps d'un séminaire avec des musées en région en novembre, que si le Musée national de l'histoire de l'immigration travaillait à la perfection, peut-être qu'il travaillerait à sa disparition, puisqu'il deviendrait le musée d'histoire de France finalement. Donc bien sûr, c'est une figure de l'esprit, c'est facile de le dire, mais on sait tous que selon le point de perspective qu'on place dans nos actions, eh ben, on n'a pas la même façon de cheminer dans notre travail, et je trouve que c'est pas inintéressant de se donner ce point de perspective. Mais pour revenir plus précisément au sujet que nous propose aujourd'hui Yvan Gastaud, alors c'est vrai que moi j'ai accroché en 2011, et je ne vais pas refaire l'historique que vient de vous donner Yvan, mais juste pour dire c'est un exemple pour moi vraiment encore qui reste très, très important, de comment s'articule cette coproduction entre des chercheurs, des associations, la société civile dans les territoires et le musée national. C'est vraiment cette initiative en 2011 où Catherine Vitold de Venden était là, et Yvan bien sûr, et où vraiment moi je suis pour pas grand chose, si ce n'est d'avoir vraiment insisté lourdement pour qu'ils écrivent une note qui soit présentée dans ce conseil d'orientation du musée, pour donner aussi une vie réelle, tangible, à cette idée de dialogue et aussi de donner des pouvoirs de décision à la société civile dans les instances d'un musée national, ce qui là aussi est peut-être pas courant dans tous les musées nationaux. En tout cas, c'est vraiment cette décision de conseil d'orientation qui a donné lieu à l'exposition. Puis derrière, et c'est Michaël Petitjean qui est tout au fond de la salle, mon collaborateur, qui a pendant 4 ans développé les expositions itinérantes. Et là, je trouve que c'est un retour sur les territoires très intéressant au travers de ces expositions, cette déclinaison en expositions itinérantes qui permet de continuer à transmettre le message, à ouvrir des débats, à engager un dialogue avec les populations sur les territoires pour à chaque fois essayer de faire partager à nouveau ce récit, toujours avec cette même idée de travailler sur les représentations. Et parce que pour moi, vraiment, la question du récit, elle est centrale dans le musée. Tu l'as dit tout à l'heure, elle a pour but, pour moi, de vraiment amener le public à se décentrer, à faire un pas de côté, à essayer de voir les choses différemment, à s'interroger, à se questionner. Et pour ça, il nous faut bien à la fois le récit historique, mais aussi le récit des artistes, aussi le récit des sociologues, de l'art vivant au travers d'une programmation, de la production de savoir, ce qu'on s'attache à faire aussi dans ce musée national, et puis de la médiation qu'on peut avoir in situ, certes, mais aussi hors les murs au travers de ce dispositif d'exposition itinérante.
Je te coupe une seconde, il y a notamment la Galerie des Dons,
voilà,
qui dans le musée est un service où des personnes viennent donner des objets qui sont souvent des objets du quotidien, mais ces objets s'accompagnent d'un récit, c'est-à-dire qu'ils n'ont de sens que si un récit est capté. Je crois que c'est capté aussi avec une dans le cas de la vidéo, où un récit, une carte tati par exemple, ou une valise, ou quelque chose qui dit la migration est accompagné d'un récit souvent au long cours.
Mais là aussi, c'est intéressant de voir qu'au tout début du projet, effectivement, on a appelé ça la galerie des dons parce qu'on s'imaginait qu'on allait nous donner. Et je me rappelle Driss Eliazami, le directeur de générique, qui disait: mais pourquoi les migrants devraient plus donner que les autres? Enfin, c'était... Tout était sujet à dialogue corsé, on va dire, parce qu'effectivement, et aujourd'hui, on voit bien qu'on parle plus de la collection ethnographique, on parle un petit peu moins de la galerie des dons qui va évoluer, parce qu'en réalité, tout ça, c'était pas des dons, c'était des dépôts. Parce que c'est normal, les migrants qui venaient, qui avaient à la fois ce désir de déposer leur récit au travers d'un objet, quelque part, ils se méfiaient, entre guillemets, un peu de ce musée national. Qu'est-ce qu'on allait en faire? Pourquoi? Pour raconter quoi, justement? Donner quelle image? Et c'est vraiment intéressant aujourd'hui, 10 ans après, de véritablement interroger cette question de comment on collecte le récit, qu'est-ce qu'on en fait, comment on le montre, pourquoi, et de vraiment être clair sur les intentions de diffusion de ce récit. Parce que c'est pas seulement de collecter, c'est la responsabilité qu'on a quand on collecte un récit, de ce qu'on en fait, comment on le montre et comment on le diffuse. Et donc ça, c'est aujourd'hui vraiment la réflexion qui est importante au musée par rapport à ça. Et je vais juste finir avec... hier soir, je disais que j'avais un souvenir d'un texte de Michel Butor, alors qui me parle beaucoup, puisque moi j'ai grandi dans la région Rhône-Alpes, et donc la frontière italienne, je la connais aussi. J'ai raconté à Yvan que je passais mes vacances à Pont-de-Beauvoisin, et à Pont-de-Beauvoisin, il y a un pont, évidemment, Pont-de-Beauvoisin en France et Pont-de-Beauvoisin Italie. Et donc, c'est encore aujourd'hui avec ces pancartes-là, et les gens, aujourd'hui encore, disent on va en France. Donc, alors qu'ils sont en train de traverser un pont qui est juste au milieu de ce village. Donc c'est vraiment quelque chose de très prégnant et de très fort. Et alors j'ai beaucoup aimé d'avoir retrouvé ce texte de Michel Butor, et moi j'hésite pas à mettre mes lunettes parce que sinon je n'y vois rien.
Faut que je trouve les miennes.
Donc Michel Butor, qui à un moment donné de sa vie, donc vous le connaissez, le chantre du nouveau roman, il est connu pour sa littérature bien sûr, mais je savais qu'il avait parlé de cette question de la frontière parce qu'il s'est installé à un moment donné de sa vie à Lucinge, donc un petit village en Haute-Savoie, dans une maison qu'il a appelée volontairement à l'écart, parce qu'il avait le souhait de se mettre à l'écart. Et je trouvais que son petit texte, je vous rassure, il est très court, finalement résume assez bien à la fois l'intention d'un musée, pourquoi un écrivain va s'intéresser à la question du récit et pourquoi il va physiquement se poser sur la frontière. Donc voilà. J'ai toujours eu envie de regarder ce qui est à côté de ce qu'on me montre. Dans un musée, j'observe ce qui est à l'intérieur des cadres, mais aussi le cadre lui-même et le mur à côté du cadre. J'aimerais retourner le tableau pour voir ce qui est de l'autre côté, ce qui n'est évidemment pas recommandé. Il m'a toujours paru important de regarder ce qu'on ne vous montre pas. Et là, au terme de questions sur, de travail sur les représentations, ben, on y est. Henri Cartier-Bresson était comme moi. Un jour, il m'a dit « Quand je voyage, je regarde ce qu'on me montre et je photographie à côté. » C'est pour cela aussi que j'aime vivre à côté d'une frontière. Ici, je suis à deux pas de la Suisse, où je vais faire mes courses, et non loin de l'Italie, par le tunnel du Mont-Blanc. Traverser les frontières m'aide à voir. Donc,
merci. Merci Agnès pour avoir sorti ce passage de Michel Butor. Je crois que c'est une très bonne entrée en matière. Ça va nous aider à réfléchir. Alors, pour terminer cette introduction qui est un tout petit peu plus longue, mais ça fait bien parce qu'il y a un intervenant qui ne peut pas venir, Gabriele Poglio, donc on aura un peu de temps après, un peu plus tard. Et donc, en chemin faisant, puisque le programme était prêt en septembre déjà, on est exceptionnellement précoce cette année, mais entre-temps, Michel Piedinelli, qui est ici, présente, qui est écrivain, auteur du célèbre, désormais célèbre, Boccanera. Vous voyez ici, Boccanera, tout le monde doit connaître ce roman Boccanera qui raconte l'histoire d'une, comment on peut dire, détective privée femme dans le Vieux-Nice, effectivement. Entre-temps, on s'est parlé et elle me dit que le deuxième numéro, la suite de Boccanera, qui est publiée aux éditions de l'Aube, traitera de la question des frontières. Donc, forcément, ça tombait bien. Donc, tu nous fais l'amitié d'être là ce matin. Donc, pourquoi la frontière et comment est-ce que tu en es venu à proposer un deuxième ouvrage sur ce sujet de la frontière ?
Alors, donc, c'est un polar. Celui-là est un polar, le prochain sera un polar, c'est de la fiction, c'est vraiment donc c'est un récit. Alors, je vous fais juste le pitch, comme on dit maintenant,
pitch,
c'est une
horreur.
Donc le résumé du livre. Donc toujours la même Boccanera, qui est donc détective privé, tombe sur le cadavre d'un jeune érythréen qui a été passé à tabac au Mont-Boron. Et elle se demande d'où vient ce jeune homme, comment il a atterri à Nice. Ça, c'est la première, c'est l'intrigue principale. La deuxième chose, il y a un récit qui parcourt ce bouquin. Il y a quelqu'un qui raconte une histoire qui commence en 1943 et qui raconte cette histoire. Ça se passe sur la frontière franco-italienne et ça commence au moment où les Italiens s'en vont et les Allemands arrivent. Et ce jeune garçon, c'est un jeune garçon, a l'habitude de faire passer des gens, lui il appelle ça des gens, il ne sait pas trop bien, qui passent de France en Italie parce que l'Italie est un refuge pour eux. Et ce qui l'étonne un peu, c'est que son frère aîné, quelques années avant que la guerre ne se déclare, lui avait l'habitude, ou de temps en temps, faisait passer des gens d'Italie vers la France, des gens qui avaient un accent étranger un peu bizarre, un peu des Hongrois, un peu des Tchèques. Et à ce moment-là, la France était un refuge. Donc ces deux histoires sont en parallèle. Et finalement, le troisième élément qui sous-tend le bouquin, je le dois beaucoup à un livre de Andrea Camilleri, qui est sicilien. Ce livre s'appelle Le Tour de la Bouée, Giro della Boa, qui a été écrit en 2001, donc juste après le contre-sommet de Gênes, absolument catastrophique, mais aussi c'est la première fois où il parle de tous ces réfugiés qui arrivent en Sicile et où il assiste impuissant à cette arrivée de deux gens malheureux, désespérés sur ses côtes. Donc voilà, ça c'est le pitch. Et le pourquoi de voilà, qu'est-ce qui fait que je me suis intéressée à ça, il y a effectivement forcément des raisons personnelles. Quand on écrit un roman, on se raconte un peu. Voilà, c'est pas très original. J'ai un grand-père qui est né italien et qui est mort français sans jamais bouger de place parce qu'il habitait à Tende. Bon, donc d'un trait de plume, d'abord par un référendum et par un trait de plume, la frontière a changé. Moi, ça m'avait déjà petite, je trouvais ça assez étonnant. Et puis, j'ai une grand-mère, sa femme, elle est partie d'Ombria, pour venir à Nice. Elle avait 9 ans et elle est devenue bonne à tout faire dans une usine de peinture. Bon, elle, c'était la faim qui l'a fait partir de son village. ses frères, c'était le fascisme, mais elle, ses frères aînés, mais elle, elle était petite et c'était la fin. Donc pour moi, la frontière, déjà, ça a toujours eu un sens. Et en même temps, quand j'étais petite, je me disais, mais une frontière, c'est quoi ? Petite, j'imaginais qu'il y avait un trait, quoi, entre la France et l'Italie. Et donc on faisait, il y avait un bout d'herbe en Italie, puis un autre en France, comme le pont, quoi. Hein, je me disais, peut-être qu'il y a des gens, même, ils nettoient la frontière, quoi, comme ça, pour qu'elle soit bien propre. Voilà. Donc ça, c'est une espèce d'imaginaire enfantin, puis après qu'on grandit avec. Mais pour moi, c'était vraiment juste un concept, et un concept vraiment pas très rationnel, la frontière. Bon. Puis après, il y a l'actualité. Il y a l'actualité qui nous rattrape. Il y a cette frontière maritime qui est la Méditerranée, d'abord, et qui devient un cimetière. Et puis, il y a les frontières, il y a toujours cette frontière terrestre entre la France et l'Italie. Et on passe d'un côté, on passe de l'autre. Et voilà. Donc, je voulais vraiment parler de ça parce que ça me touche. Alors je suis pas chercheuse, donc je n'ose pas dire que j'ai fait des recherches, mais je me suis documentée, notamment. Je suis allée voir Marc Ortolani, qui est donc dans la salle, qui m'explique cette histoire de frontière qui n'arrêtait pas de bouger, notamment pendant la guerre, quoi, et qu'un coup c'était français, un coup c'était italien, et bon. Et puis d'autres, mais surtout voilà, j'ai voulu raconter. Et puis aussi, il y avait un moment, je vais faire un peu de démagogie, quoi. En 2016, il y a un historien qui a écrit un truc dans Nice Matin, là, et qui s'est pris une volée de bois vert de la part du préfet. Et je me suis dit, ah, quand même, il y a un truc, là. Bon. Mais c'est vrai que l'histoire des actions des gens de la Roya, voilà, pour ne pas les nommer, ressemble beaucoup à ce qui pouvait se passer pendant la Seconde Guerre mondiale, où il fallait faire passer des gens. Et alors le terme de passeur, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'un coup c'est négatif et un coup c'est extrêmement positif. Voilà. Donc on fait passer des gens d'un côté ou de l'autre pour les sauver. Voilà. Donc
Mais ce que tu dis est intéressant pour notre journée aussi, parce que finalement tu dis que tu t'inspires de certains historiens et non des moindres, hein, Marc. Et il y en a d'autres ici dans la salle qui peuvent apporter du grain à moudre à ta réflexion. Il y a ton parcours personnel, ta famille. Il y a l'actualité. Et le militantisme, certainement aussi. Et les historiens ou les chercheurs s'inspirent aussi, dans certains cas, de romans. Enfin, moi, je sais que beaucoup, et certains le diront ici, quand on travaille, on va voir du côté du cinéma, on va voir du côté de la littérature, on va voir du côté de ce que produisent les artistes, les écrivains. Le polar, c'est une extraordinaire source de travail. Je prends l'exemple de Denynx, par exemple, ou d'autres qui ont apporté des éléments de réflexion au travail de recherche. Hein, bon, voilà, donc je pense que voilà, c'est la manière dont tu évoques comment est-ce qu'on construit un roman, comment est-ce qu'on le met en place, comment est-ce qu'on donne une suite à Boccanera, est quelque chose qui, d'une certaine manière, travaille cette question des récits. Alors, je ne sais pas si tu veux encore...
Non, c'était juste pour dire que, voilà, il y avait aussi la volonté de mettre en lumière, mais de montrer aussi le travail des militants, comme tu le disais. J'en connais quelques-uns dans cette salle. Qui sont des gens qui œuvrent absolument tous les jours, au quotidien, sans... les militants de la Roya notamment, hein, sans gloriole, sans rien, sans, mais juste parce qu'il faut le faire. C'est simplement un moment dans le livre. Voilà, il y a des gens, Boccanera va monter à Breil, forcément, pour voir un peu, questionner un peu ce qui se passe, parce qu'elle ne comprend pas ce qui se passe, comment, voilà. Et elle va raconter des gens qui vont lui dire simplement qu'on ne peut pas rester, quand quelqu'un arrive en tongs dans son champ au milieu de l'hiver, on ne peut pas rester sans rien faire, et que le simple geste d'humanité, c'est de l'aider, même si l'aider, par les temps qui courent et avec les lois qui ne courent pas d'ailleurs, ça devient de la délinquance, quoi. Voilà.
Très bien, écoute, merci beaucoup. On est
Merci de m'avoir invité. Hein.
Non, mais tout le monde jugera que c'était indispensable. Et donc, on va se. Donc, Boccanera va bientôt paraître, bientôt. Alors, on va se jeter sur
bientôt
le.
Bientôt en mai, le prochain. Là. Celui-là est sorti, mais le prochain en mai, parce qu'il faut quand même.
En mai, un peu, ouais. D'accord. Donc, on regardera ça avec beaucoup d'intérêt.